Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse JV. Alors cette semaine, une édition vraiment spéciale, une édition déstructurée, mais une émission de qualité malgré tout, je l'espère. Oui, là, je casse complètement le sommaire habituel de l'émission, alors j'espère que ça va pas trop vous déstabiliser, mais il s'est passé quand même cette semaine, si vous suivez l'actu, même de très loin, l'actualité JV, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Les Game Awards, le State of Play PlayStation, le Nintendo Indie World, bref, ça, sur la même semaine, du coup, beaucoup de choses à dire, et même en condensant, alors j'ai fait des tests, hein, j'ai travaillé, même en synthétisant un maximum, là, tout ne rentrait pas dans les cases de l'émission. Donc vous n'aurez pas le déroulé habituel, là, on va se concentrer sur ces trois événements. Alors, vous savez, chaque semaine, j'aime bien vous apporter des sujets un petit peu décalés, différents de ce qu'on peut trouver dans la presse JV habituelle. Bah, cette semaine, je ne pourrai pas trop, puisque, voilà, événement oblige. Ces trois events ont vraiment parasité l'actu cette semaine et je sais que certaines et certains d'entre vous n'ont pas pu tout suivre et c'est mon rôle aussi, c'est de pouvoir vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc on va être très clair, il n'y aura pas de jeu de la semaine, hein, pas de synthèse comme ça, d'accueil critique d'un jeu, il n'y aura pas de brochette de news. Et oui, c'est une émission très spéciale, hein, je vous le dis tout de go. Avant de commencer, si vous voulez gagner le dernier rétro laser de chez Omake Books, alors je sais pas si vous connaissez rétro laser. Hein, c'est Florent Gorge qui s'occupe de ça et ça parle de toute la pop culture du 20e siècle. Et pour ce numéro 6, dans lequel j'ai écrit, il m'arrive parfois d'écrire dans Rétro Laser. Et là, dans le dernier, je vous ai fait un article avec les Tiny Toons, hein, les origines des Tiny Toons et pas mal de trivia sur le lancement de la série et sur la série en elle-même. Mais on parle surtout de Columbo Ultraman, des éditions Lug, la guerre de Lodos, d'une collection absolument incroyable de jeux Game Boy. Bref, pas mal de choses. Si vous voulez gagner ce numéro, alors d'habitude, vous savez, pour les concours, on fait un tirage au sort, etc. Je vous pose une question. Là, on va faire un petit peu différemment pour changer. Vous allez me poster sur le compte Twitter de l'émission en me taguant, bien sûr, hein, en taguant la revue de presse JV. Pas obligé de suivre, hein, vous savez, ça, j'aime pas forcer à faire des RT, à follow le compte, etc. Non, ça, c'est pas le genre de la maison, vous le savez. Mais juste en me taguant pour que je retrouve les photos, j'aimerais, parce que ça m'intéresse vraiment, je me suis dit que c'était l'occasion, que vous me postiez une photo vous mettant en situation quand vous écoutez la revue de presse JV. Ça me permet d'en savoir un peu plus. Je sais pas si vous l'écoutez le matin, le soir, etc. Dans la cuisine en faisant la vaisselle, que sais-je, ou dans le RER en allant au boulot. Comme vous voulez, vous me taguez la plus rigolote gagnera le mag. Après, vous m'envoyez votre adresse par MP, hein, voilà, et hop, c'est parti. Si vraiment je n'arrive pas à départager plusieurs photos, et ben là, je ferai un tirage au sort comme avant, avec vos pseudos, etc. Bref, ce sera fait dans les règles de l'art, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas, faire une petite photo qui illustre le moment où vous écoutez la revue de presse JV. Vous taguez donc le compte, hein, revue de presse JV, tout collé sur Twitter, ou si vous utilisez Facebook, vous me taguez sur Facebook aussi, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. Et puis voilà, un beau rétro laser. Et puis si vous avez envie que je vous mette un petit mot dessus, alors je dis ça sans prétention aucune, hein, mais si vous voulez que je vous mette un petit mot rigolo, machin, tout ça, vous me le dites, je le ferai avec grand plaisir. Si vous préférez que le magazine ne soit pas abîmé, je n'y mettrai aucune petite griffe. Avant de passer à la suite, d'ailleurs, je vous précise que dans ce numéro, côté presse JV, j'allais oublier l'essentiel, si vous aimez la presse jeux vidéo, le papier essentiel de ce numéro, c'est justement un débat sur la presse jeux vidéo d'hier et d'aujourd'hui, avec quand même Daniel Andreev, hein, Kamui, Pouillot, le rédacteur en chef de GameCult, et Grégoire Hello, qu'on ne présente plus, qui parle un petit peu avec Florent, qui pose des questions sur l'histoire de la presse jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment le dossier central, hein. Moi, c'est, je me suis vraiment régalé à le bouquiner. Donc vous me dites, avant qu'on attaque l'émission, intro très longue, mais édition spéciale, je vous l'ai dit, il n'y a pas de brochette de news, comme je vous le disais, mais avant d'attaquer donc les trois events qui sont au centre de cette édition spéciale, deux news, hein, qui sont un peu hors event, mais qui m'ont tellement marqué, qui m'ont tellement fait plaisir que je ne pouvais pas passer outre. ce matin. Tout d'abord, c'est Persona 5 Royal sur PlayStation 4. Vous savez, c'est la version plus avec un nouveau personnage, etc. Et qui sera intégralement traduit en français. C'était l'une des grandes nouvelles de cette semaine. Persona 5 traduit en français, c'est complètement dingo. Vous pourrez toujours avoir les voix japonaises ou anglaises, mais vous aurez donc les textes en français. Et donc ça, c'est attendu pour le 31 mars 2020 sur PS4, et ça j'ai envie de vous dire, c'est bonheur, grand bonheur même, petite dédicace à Mopral, le fan absolu de Persona 5, et parler aussi de Sega qui nous sort un Bayonetta and Vanquish, 10e anniversaire bundle sur PS4 et Xbox One. Alors ça pareil, c'est grand bonheur, Bayonetta, on ne le représente plus, Vanquish, c'est le TPS survitaminé de Shinji Mikami qui, et ça ne regarde que moi, hein, ne me jetez pas de cailloux virtuels, mais pour moi qui fait passer vraiment Gears of War pour une simulation de tracteur. Bref, ces deux jeux-là vont être réunis dans un bundle. Ça sort le 18 février 2020. Donc du Platinum qu'on aime, Hideki Kamiya et Shinji Mikami réunis dans un bundle de l'amour. Et donc il est temps de passer au débrief un peu du premier event qui était donc le Nintendo Indie World. Allez, c'est parti. Alors je vous le cache pas, le Nintendo Indie World, ce sera vraiment la section la plus courte de cette émission puisque c'était très sympa, mais il y a quand même moins de choses à dire. Donc là, je vais m'aider du Journal du Geek qui a fait une synthèse. On a tout d'abord eu l'annonce de Sport Story. Alors si vous avez aimé Golf Story, et ben là c'est Sports Story. C'est plus grand, ça prend en compte beaucoup plus de sports qui vont d'ailleurs se mélanger entre eux. Hein, on peut imaginer, pourquoi pas, faire du golf avec une raquette de tennis. Bon, je vous donne un exemple tout bête comme ça, mais c'est une version plus de Golf Story sur Switch. Alors si vous avez aimé Golf Story, Sport Story va vous plaire, surtout avec toutes les disciplines qui vont se mélanger, avec les mini-jeux, les donjons, etc., de l'espionnage, bref, il y a pas mal de choses. Et donc la sortie est calée pour la mi-2020, hein, je répète, bien sûr, c'est une exclue Switch. Là, ça m'a fait grandement plaisir, ce qu'on a revu du Street of Rage 4, oui, hein, développé par Dotemu, avec là, le reveal du personnage d'Adam qui faisait partie du trio de base, hein, du tout premier Street of Rage. Donc on a vu du gameplay avec Adam, ça a une patate toujours d'enfer, le feedback des coups a l'air vraiment incroyable, visuellement plus je le vois le jeu et plus il me plaît, donc ça c'est prévu première moitié de l'année 2020. On attend ça avec grande impatience. On a vu un petit peu le jeu de la honte, j'ai envie de vous dire, qui s'appelle Gleamlight, un jeu qui ressemble, ça a été un peu le malaise, je sais pas si vous avez suivi ça ces derniers jours, mais c'est vraiment un copier-coller d'Hollow Knight. On a vraiment l'impression qu'il y a des assets qui sont vraiment reportés complètement, c'est un clone d'Hollow Knight, vraiment c'est très gênant, donc je vais pas en parler plus que ça. On a eu aussi du Blake and Switch, un univers en 3D très coloré, nous dit le Journal du Geek, où trois joueurs devront s'affronter ou coopérer pour cuisiner en mode contre la montre. Donc c'est développé par le studio Streamline. Le jeu est annoncé pour l'été 2020 sur Switch, et on sent qu'Overcooked est passé par là, bien évidemment. Très intéressant aussi, et déjà disponible sur PC, il me semble, c'est Super Smash, voilà, j'ai fait la boulette qu'il ne fallait pas faire, donc à ne pas confondre avec Smash Bros. C'est un jeu où en fait vous allez mélanger plein de concepts de jeux différents et voir ce que ça donne. Voilà, le joueur devra choisir, nous dit plus précisément le Journal du Geek, deux types de jeux différents. Donc vous avez du jeu de plateforme, du jeu de course, du shooter, du RPG, etc. Et vous assemblez deux genres et ça vous fait un jeu, une sorte donc de mash-up, bien sûr, avec un résultat qu'on nous promet imprévisible et qui peut donner naissance aussi bien à un nouveau concept de jeu très intéressant ou quelque chose de totalement barré, insensé, voire injouable peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est développé par Digital Continue, c'est attendu pour le mois de mai 2020 et vraiment, c'est le concept je trouve complètement dingue. Si ça marche, ça peut être quelque chose d'énorme, ça on va vraiment le suivre. Alors on a aussi The Talos Principle qui va sortir donc sur Switch. D'ailleurs le Journal du Geek s'est un peu trompé, a mis The Talos Principle donc, qui est annoncé sur Switch et je crois qu'il est déjà même sorti. Oui, je crois qu'il est sorti maintenant. Bon, jeu de réflexion, vieux FPS très célèbre qui est déjà donc disponible. Alors je vais pas vous parler forcément de tous les jeux qui ont été présentés. Là c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué. Voilà, parce qu'on a aussi du Cellforce, du Dauntless. Bon, moi c'est pas trop ce qui me fait vibrer, mais bon, je vous l'indique également. Skatebird, le fameux jeu de skate avec des petits piou-piou, a refait aussi son apparition. Donc ça, Skatebird va arriver court en 2020 sur Switch. Mais surtout, pour moi, et là je vais quitter le journal du geek, pour moi la grosse annonce, c'est Axiom Verge 2. Alors Axiom Verge, ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, je vous en ai souvent parlé. C'était un jeu donc très pixel art, très 8 bits, donc qui rendait hommage à Metroid, avec un twist de gameplay que certains testeurs de certains magazines, j'en avais parlé, ne connaissaient pas, qui avaient testé le jeu, qui n'avaient même pas fait la moitié. Bref, ça c'est encore autre chose. Axiom Verge, pour moi, c'est un avis tout à fait personnel, hein. C'est mon avis, je le précise, mais c'est pour moi le meilleur Metroid, a fortiori Metroidvania, mais je dirais même le meilleur Metroid, parce qu'il rend surtout hommage à Metroid, de ces dernières années. J'ai adoré Axiom Verge, son LD, donc son level design, son game design en général, ses features de gameplay, c'était un bonheur. Alors, il y a un parti pris graphique et musical qui est assez radical, hein. Il faut aimer, j'en conviens tout à fait. Mais j'ai adoré ce jeu, vraiment. Et donc là, un 2 a été annoncé. Visuellement, pareil, vous voyez, ça claque pas non plus. Comme disent les vieux magazines de jeux vidéo, ça flatte pas trop la rétine, voyez-vous. Mais si le game design, le level design a une qualité équivalente au premier, moi, je signe tout de suite. En tout cas, moi, ça a été une belle grande surprise. Hein. J'ai fait des bons, j'étais très heureux. Et donc, on apprend via une news de Gameblog que Axiom Verge 2 a donc été développé dans le plus grand secret depuis maintenant 4 ans. Et c'est toujours Tom Happ qui est aux commandes de ce jeu. Il faut savoir que le premier Axiom Verge, il a mis des années à le faire tout seul, comme un grand dans son coin. Et donc, Gameblog rapporte les propos de Thomas Happ sur le choix de la Switch. Moi, Axiom Verge, qui est sorti sur à peu près toutes les machines. Le premier, vous pouvez le trouver vraiment partout. Moi, je l'avais fait sur PS4, mais il est dispo sur PC, sur Xbox, j'imagine, et sur la Switch première du nom, bien sûr. Et donc, sur la Switch, Tom Happ nous dit, je cite, « La Switch était une sorte de plateforme naturelle pour commencer ce développement. Il semble qu'au bout de quelques années, la popularité des différents supports varie pour les jeux indépendants. Et pour le moment, la Switch est vraiment le meilleur endroit pour en profiter. Les ventes d'Axiom Verge sur Switch se portent toujours plutôt bien, alors qu'elles ralentissent sur les autres plateformes. Cela met également que la Switch possède les caractéristiques les plus basses, car je suis certain que si je développe mon jeu dessus, je pourrais le faire tourner sans sacrifier quoi que ce soit. » Et oui, effectivement, c'est d'une logique implacable, mais là, c'est bien vu. Il nous dit, je cite à nouveau, « J'y ai pensé lorsque la Switch a été annoncée pour la première fois. J'ai bidouillé pour tenter d'obtenir des détails techniques de la part de Nintendo pour être sûr que la résolution du jeu soit compatible avec l'écran en mode nomade sans avoir besoin de l'étirer ou de le gommer. » Alors pour l'instant, Axiom Verge 2 est donc attendu uniquement sur la Switch en fin d'année 2020, donc il va falloir s'armer de patience. Mais bon, il est quasi certain que le jeu après, à terme, sortira sur la plupart des plateformes, à moins que ce soit une exclu Switch. Alors ça, je ne sais pas, on n'a peut-être pas plus d'infos pour le moment là-dessus. Mais en tout cas, bon, c'est une grande, grande nouvelle. Alors, on va débriefer le sondage que je vous avais tendu, que je vous avais proposé la semaine dernière. Nouveau sondage qui concernait donc les awards de JV que décernent toutes les rédactions chaque année. Hein. Vous le savez, GameCult, JV.com, Gameblog, etc. Tout le monde propose ces awards. Moi, je trouve ça très sympathique. J'aime toujours, c'est une petite tradition, voter pour les GameCult Awards chaque année. Bref, je vous posais la question, effectivement, à savoir ce que vous pensiez de ces awards qui reviennent chaque année. Vous avez été 95 à voter, et pour 22% d'entre vous, ça n'a aucun intérêt. Tout simplement, vous n'en avez rien à secouer. Bon, au moins, c'est clair. 38% d'entre vous m'ont dit y jeter un œil, mais pas plus. Voilà. Pas plus d'intérêt que cela. 39%, la majorité, me dit aimer cette tradition. Voilà, vous aimez ces awards. Et 1% qui a répondu autre, en demandant des précisions. Et des précisions, vous m'en avez donné. Par exemple, Fabien nous dit « Aucun intérêt, si ce n'est pour vendre davantage de jeux qui ont, pour la plupart, déjà bénéficié d'une campagne promotionnelle. » Sushi, du podcast Beside Games, que je salue chaleureusement, nous dit « J'aime beaucoup regarder pour voir si je ne suis pas passé à côté d'un jeu ou deux durant l'année et qui pourrait me plaire. » Et c'est vrai que c'est un petit peu aussi ce que j'aime bien, c'est que ça rappelle à mes bons souvenirs certains jeux. Il y a tellement de bons jeux qui sortent que parfois il y a certains qui nous font de l'œil et puis qu'on oublie à cause de l'axe de cette actu écrasante qui ne cesse comme ça d'exercer son rouleau compresseur, et ça permet de se remémorer certains titres. Machin Truc 76 nous dit aucun intérêt pour moi, donc Machin Truc au moins là c'est clair. Si Widiju nous dit je regarde toujours au cas où j'aurais loupé un truc dans l'année ou pour avoir une confirmation sur ce que j'ai aimé par rapport à l'opinion générale. Winston du podcast Backlog, que je salue, nous dit avec le temps, limite je préfère les VGA, donc les Video Game Awards, à tous ces tops qui sont juste faits pour cliquer sur un max de pages. C'est un point de vue effectivement. Yeti, que je salue aussi chaleureusement, je salue tout le monde chaleureusement, je ne suis qu'amour, vous le savez, Yeti du podcast B-Side Games également, nous dit les quelques annonces me hype et c'est tout. Voilà. Romain Richum nous dit, franchement j'aime bien, ça permet de faire un petit récap de l'année en buvant un bon vin chaud. Oui, c'est vrai que c'est pas mal de ce point de vue là. Cédric le Ménestral nous dit, aucun intérêt pour ma part. Mathieu Varnier enfin nous dit, pour voir à quel point je ne suis pas d'accord avec les résultats, je jette un œil à tout ça. La seule exception reste les Game Awards, où seules les annonces de nouveaux jeux ont de l'intérêt. Et vous ne croyez pas si bien dire, vu qu'on va bientôt en parler dans cette émission. Mais il y a un nouveau sondage. Et le nouveau sondage, donc celui que je vais vous poster là, ce dimanche, c'est sur la Xbox Series X. Oui, donc allez voir ça. Et on va en parler tout à l'heure de cette Xbox Series X. Et pour l'instant, on va causer du State of Play. Allez, c'est parti. Le State of Play, donc, c'était le mardi 10 décembre également, le Nintendo Direct de Sony. Il y a eu des belles choses, effectivement, et surtout, bien sûr, c'était attendu, et ça avait fuité avant. C'est un petit peu dommage, hein. Mais on savait que c'était en développement, Capcom n'avait cessé de poser comme ça des petites pistes dans ce State of Play. En tout cas, le moment que beaucoup ont retenu, eh ben, c'est l'annonce officielle du remake de Resident Evil 3, hein, c'est calé pour le 3 avril 2020, soit un petit chouille plus d'un an après le remake de Resident Evil 2, qui a d'ailleurs, petite parenthèse, le remake de Resident Evil 2 a dépassé les ventes de la version d'origine, hein, tout portage confondu, c'est assez impressionnant. Bref, Resident Evil 3, donc une belle bande-annonce qui claque avec une Jill que l'on voit même infectée à un moment donné, ce qui n'étonnera pas les fans, hein, des vieux Resident Evil, puisque vous le savez, donc Resident Evil 3, hein, c'est le troisième et le dernier, hein, sur la PlayStation de l'époque, et à un moment donné, c'est pas un gros spoil que je vous donne, hein, mais Jill était infectée dans le jeu. Sauf que là, ils prennent ce petit moment qui était vraiment un petit moment du 3, hein, qui est même pas un spoil, je vous dis, hein, c'était vraiment un petit passage comme ça, très classique des Resident Evil, vous avez toujours un personnage qui est infecté au bout d'un moment. Là, ils ont l'air d'exploiter cette idée-là, donc c'est très intéressant. On a appris aussi que le Resident Evil Resistance, vous savez, le jeu en ligne asymétrique qui avait été révélé donc au mois de septembre, et ben finalement, c'est le mode multijoueur qui sera inclus d'office dans ce remake de Resident Evil 3. Info GameCult supplémentaire, GameCult qui avait remarqué effectivement dans la bande-annonce de ce RE3 remake l'apparition d'un logo inconnu M2-M-TWO, et à ne pas confondre avec M2, hein, bien sûr, le célèbre studio qui est spécialisé dans le portage de jeux rétro et qui s'est occupé aussi de la Mega Drive Mini. Non, là, M-2, c'est un studio fondé en 2017 par Tatsuya Minami. Oui, Tatsuya Minami, ex Platinum Games, hein, qui avec l'appui financier de Capcom est situé tout près du quartier général de l'éditeur à Osaka. Et donc le studio M2 est particulièrement proche de Capcom. Il n'en demeure pas moins un studio indépendant, techniquement, mais en tout cas le studio contribue au développement de Resident Evil 3. Donc Minami, ancien big boss, hein, de Platinum Games, donc bosogne avec son nouveau studio sur Resident Evil 3. Bref, on a eu dans ce State of Play aussi de nouvelles images de Predator Hunting Grounds. Hein. Ça, c'est calé pour le 24 avril 2020. Vous savez, c'est ce shooter, hein, asymétrique, multi, où vous pouvez tout aussi bien incarner le Predator que les chasseurs humains. Donc ça, c'est assez rigolo. On a eu enfin aussi, et même si ça avait fuité avant, l'officialisation du chapitre traditionnel de Kingdom Hearts 3, nommé Remind, hein, qui sera disponible le 23 janvier 2020, donc vraiment un an après la sortie du jeu sur PS4. Donc ce DLC est un chapitre additionnel, hein, je l'ai dit, avec des personnages inédits et le retour de personnages de Final Fantasy qu'on avait pu voir dans les vieux Kingdom Hearts, Aerys, Squall, Yuffie, mais aussi d'autres personnages bien connus de la galaxie Kingdom Hearts, hein, Yuzurai, Kairi, etc. Bref, il est en précommande pour environ 27€, et avec 10€ plus cher, vous pouvez précommander un pack comprenant l'enregistrement vidéo de 19 morceaux issus du concert Kingdom Hearts World of Trace, je ne sais pas si je le prononce bien, bref. Untitled Goose Game arrive sur PS4, on l'a appris dans ce State of Play, le jeu, le fameux jeu avec cette oie qui enquiquine les habitants d'un village, et ben ça y est, ça arrive, c'est un jeu absolument extraordinaire, vraiment, et c'est bonheur, hein, à nouveau, de le voir arriver. On a eu du teasing sur Ghost of Tsushima, l'un des derniers gros jeux de la PS4, hein, signé Sucker Punch. Il y a eu du teasing, et justement teasing pour les Game Awards, et on va y revenir tout à l'heure, donc je ne m'attarderai pas plus que ça sur Ghost of Tsushima, on en reparle dans quelques minutes. On a eu aussi un message émouvant, un message vidéo du créateur, hein, de la PlayStation, Ken Kutaragi, car vous savez, on a célébré récemment le 25e anniversaire de la console. On a eu aussi une date officielle de Dreams, hein, le jeu de Media Molecule qui vous permet de créer vos jeux qui tournent déjà pas mal de temps, hein, sur une version bêta. On voit des vidéos sur internet qui sont assez impressionnantes. Donc la date officielle de sortie, c'est le 14 février 2020. Dreams, hein, vraiment, si vous avez l'âme créative, c'est à surveiller. Super Liminal aussi, ça arrive le courant année 2020. Un jeu, je sais pas si vous avez vu ça, mais en vue FPS, qui joue sur les illusions d'optique. Tapez Super Liminal voilà, sur YouTube, vous allez voir, le concept est fou. Moi, vraiment, je suis tombé amoureux du jeu et j'ai envie d'y jouer, tout simplement. On a eu aussi l'annonce du nouveau jeu d'Eric Chahi. Et oui, célèbre notamment pour son énorme Another World, mais pas que, bien sûr. Ce sera sur PlayStation VR pour le premier trimestre 2020 et ça s'appelle Paper Beast. Paper Beast, donc c'est une sorte de bac à sable avec des animaux effectivement en forme très anguleuse géométrique et on a l'impression qu'elles sont faites de papier, hein, un peu comme des origamis qui prendraient vie sous vos yeux. Et vous allez pouvoir les manipuler, faire pas mal de choses. Ça a l'air assez cryptique encore. En tout cas, Paper Beast, un nouveau jeu d'Eric Chahi, c'est à surveiller de très très près. Alors, il y a eu pas mal de petites choses. Je retiendrai en dernier Babylon's Fall, le jeu de Platinum Games qui avait déjà été teasé il y a pas mal de temps, qui s'est montré. Donc, ce sera du beat'em up, hein, avec des géants armés de grosses épées. Hein, ça fait penser un peu aux Souls, ça. Mais enfin, en tout cas, vous avez un guerrier qui manie l'épée comme jamais, comme Platinum, hein, sait le faire, bien sûr. On nous donne rendez-vous surtout cet été, donc j'imagine le 3 2020. Le jeu est annoncé sur PS4 et aussi PC, donc c'est un univers assez médiéval fantastique, et on voyait clairement qu'on avait une build là du jeu qui est vraiment toujours en cours de développement. Visuellement, ça ne faisait pas fini, mais en tout cas, ça a permis quand même de voir un petit peu à quoi ressemblait le jeu, et ça, c'est toujours intéressant. Vous savez, je suis très fan de Platinum Games, même si j'étais un petit peu déçu par Astral Chain, j'en avais déjà parlé dans une autre émission. En tout cas, Babylon's Fall nous donne rendez-vous à l'E3, ça c'est certain. Et voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce State of Play. Et ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de passer à l'instant Tipeee avec vos coups de gueule et vos coups de cœur, s'il y en a, suspense. Et après, on va attaquer le gros morceau des Game Awards. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la revue de presse JV, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la revue de presse JV. Vous savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news, hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi, maintenant, désormais, vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez, et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet, vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, et il y a aussi le Patreon, donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement, et je fais 1000 bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon. de me soutenir, car vraiment, cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos, finalement, car je fais l'émission, vous le savez, le week-end, et certains soirs de semaine, en plus de mon boulot, et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, deux coups de cœur cette semaine. Le premier est signé Mopral, alias le maître des clés, hein, pour ceux qui suivent l'émission. Mopral nous dit « Gros coup de cœur pour moi avec l'annonce de Persona 5 Royal avec sous-titres français. Vous n'avez plus aucune excuse. Le temps libre, ça se négocie sur le temps du sommeil. » Je suis d'accord avec toi, Mopral. C'est vraiment, vraiment, comme je le disais donc au début de l'émission, c'est vraiment l'une des plus belles nouvelles de la semaine, du mois, et j'ai même envie de vous dire de l'année. Un jeu de ce calibre, voilà, le voir arriver en français pour que tout le monde puisse en profiter, c'est formidable, et j'aimerais bien qu'il fasse ça sur tous les anciens Yakuza, et les anciens, les nouveaux même, tous les Yakuza, ce serait merveilleux. Pipo nous dit, coup de cœur de la semaine, Sport Story sur Switch. Switch dans le texte, hein, je précise. Golf Story, qui est un carton sur l'eShop, qui était un jeu de rôle accessible et incroyablement profond avec des quasi-liards de trucs à faire. Si le multi-gameplay de sa suite promet d'être au moins aussi bon, on va se régaler. Et oui, on en parle également dans cette émission. Sport Story, c'est une aussi des belles annonces. Et là, c'était dans le segment Indies de Nintendo. Bon, écoutez, merci pour ces coups de cœur. J'en veux plus la semaine prochaine avec des coups de gueule également. Peut-être qu'avec la nouvelle Xbox, là, ça va commencer à se bouger aussi de ce côté-là. Bon, allez, ce que je vous propose, c'est qu'on continue de manière veloutée, chaloupée et sexy la suite de l'émission. Les Game Awards 2019, donc, qui ont lieu durant la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre. Ça a été vraiment assez énorme, effectivement. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment. Je m'y attendais pas. À la base, pour l'émission, les Game Awards devaient être juste un des sujets de l'émission. Et quand j'ai vu tout ce qu'ils ont balancé, plus les events dont on vient de parler, ça faisait beaucoup, voilà. Beaucoup de choses, donc. Les Game Awards, c'est surtout, pour nous tous, les annonces, hein, une sorte de mini, tout petit E3 avec des belles petites annonces, mais il y a eu quand même les récompenses, voilà, les awards. Donc, le jeu de l'année, eh ben, c'est Sekiro, qui remporte, au grand étonnement de beaucoup de monde, et finalement, parce que c'est un jeu qui cible vraiment un public particulier, mais qui a quand même été un gros succès commercial, et on retrouve toute la patte, non seulement de From Software, mais surtout du concepteur, hein, Hidetaka Miyazaki, un game designer vraiment l'un des plus influents, hein, de ces dernières années, clairement. Donc c'est Sekiro qui a gagné le prix du jeu de l'année, meilleur jeu en cours, hein, donc c'est-à-dire les jeux service, les jeux multi, c'est Fortnite qui l'a remporté. Meilleure réalisation, Death Stranding, hein, d'Hideo Kojima. Meilleure narration, Disco Elysium. J'ai vraiment hâte de faire, hein, vraiment ce RPG. Une traduction française est en cours, d'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup à l'attendre, même si je me débrouille bien en anglais. Là, les kilomètres de texte, je pense que ça passera mieux en français malgré tout. Meilleure direction artistique, Control. Eh oui, Control, le jeu de Remedy, que j'ai hâte de le faire. Celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion, mais voilà. En tout cas, Control à son prix. Meilleure bande originale, Death Stranding. Meilleur sound design, Call of Duty Modern Warfare. Meilleure performance, Matt Mikkelsen, hein, dans Death Stranding. Game for Impact. Impact, eh ben, c'est Gris qui a remporté cet impact, le jeu indé Gris qui avait une belle direction artistique, effectivement. Meilleur jeu indé, Disco Elysium à nouveau. Meilleur jeu mobile, Call of Duty mobile, hein. Meilleur soutien communautaire, Destiny 2. Meilleur jeu en VR, Beat Saber. Je pense que c'est amplement mérité. Meilleur jeu d'action, Devil May Cry 5, hein, que j'ai pas encore pu faire et j'ai vraiment hâte de le faire. Meilleur jeu d'action aventure, Sekiro à nouveau. Meilleur jeu de rôle, Disco Elysium, hein, qui rafle beaucoup de prix, Disco Elysium. Hein. Meilleur jeu de combat, Super Smash Bros Ultimate. Meilleur jeu familial, Luigi Mansion 3. Meilleur jeu de stratégie, Fire Emblem Three Houses. Meilleur jeu de sport course, Crash Team Racing. Ah, pas mal. Meilleur jeu multijoueur, Apex Legends. Meilleur premier jeu indé, Disco Elysium. Meilleur jeu e-sport, League of Legends. Meilleur joueur e-sport, alors c'est Kyle, alors je ne connais pas, hein, Kyle Gersdorf, je ne connais pas du tout. Alors après, il y a tout un truc e-sport, alors je ne vais pas vous donner tous les noms, si vous êtes fan d'e-sport, vous le savez très certainement. Voilà un petit peu pour les awards. Mais donc le nerf de la guerre, c'est les annonces. bien sûr. Et la grosse annonce de la semaine, hein, c'est donc la nouvelle Xbox, la Xbox Next Gen, qui a un nom. Alors, ce nom est-il vraiment définitif? Moi, je l'ai compris comme ça. Je sais que certains journalistes se posent encore la question. Ce qui est sûr, c'est que le nom de cette nouvelle Xbox, je le trouve très maladroit, puisque la nouvelle Xbox s'appelle Xbox Series X. Je trouve que là, au niveau de la confusion, on est dans un syndrome Wii U qui m'inquiète un petit peu, en tout cas pour les fans de la marque Xbox. En tout cas, GameCult nous détaille un petit peu ça en nous disant « Immersif, réactif et surprenant, telle est la vision du jeu vidéo vue par la nouvelle Xbox Series X. » Et oui, c'était les qualificatifs hein, qui ont été avancés par Microsoft. Au-delà du traditionnel bond de puissance et de vitesse, hein, puisqu'on nous promet 4 fois plus de puissance de traitement qu'une Xbox One X, Microsoft, nous dit GK, insiste d'emblée sur l'héritage que ce monolithe portera sur ses épaules, à savoir la compatibilité immédiate avec les jeux des 3 générations de Xbox qui ont vécu avant lui. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, et c'est donc un monolithe en forme de PC, c'est vraiment un monolithe noir, hein. On dirait 3 GameCube empilés, et hop, avec un revêtement noir du plus bel effet. Alors, je sais pas ce que vous pensez du design, n'hésitez pas à me dire ça hein, sur le compte Twitter de l'émission, à trop vite presse JV, tout coller, le Discord, le Facebook, ce que vous voulez. Je trouve pas ça moche, je trouve pas ça... et en même temps, je trouve que ça manque de personnalité, mais je ne trouve pas ça moche. Voilà, vraiment, c'est mon avis. Limite, on peut même trouver que ça a de la gueule, effectivement, si on part dans ce délire-là. Bref, un monolithe, donc, annoncé aussi silencieux que possible, malgré sa puissance, et ciselé, nous dit GameCult, pour se tenir aussi confortablement horizontalement que verticalement, le toit de l'appareil étant intégralement dédié à la ventilation, et ça, c'est très bien, c'est très très bien, c'est une bonne décision de la part de Microsoft. Bref, l'objectif, donc, des concepteurs de la console, en optant pour cette forme, est bien sûr le fait qu'elle soit silencieuse et qu'elle se fasse oublier dans le salon. Long et ça vraiment c'est une très bonne décision, je le répète à nouveau. Donc aux antipodes, nous dit l'article hein, de l'annonce tristement mémorable de la Xbox One en mai 2013, Microsoft insiste ici sur le fait que la Xbox Series X est une machine dédiée aux jeux et rien qu'aux jeux. Et là effectivement ils ont appris de leurs erreurs puisque vous vous souvenez cette E3 historique en 2013 où PlayStation avait déjà gagné la bataille avant même qu'elle ne commence, puisque Xbox, rappelez-vous, avait mis en avant les services plus que les jeux, et cette fameuse image aussi, cette fameuse vidéo sur PS4, moi quand je veux prêter un jeu, tac, je file la boîte, enfin tout ça, ça fait énormément de mal. On va pas revenir sur le match, hein. Entre la philosophie qui entourait la console, qui arrivait peut-être un petit peu trop tôt, mais c'était très maladroit. Bref, les joueurs ont pris peur, et la guerre s'était déjà gagnée là. En termes vraiment de communication, cette E3 2013 avait vraiment fait date, hein, vraiment. Et tristement pour Xbox, donc là voilà, on a appris de ses erreurs, c'est le jeu. La nouvelle manette, nous dit-on, sans fil, vendue avec la console, conserve une forme et une taille proche de la manette actuelle, mais elle dispose d'une nouvelle croix directionnelle inspirée par celle de la manette Xbox Elite Series 2 et valide aussi l'orientation prise par la PS4 en adoptant son propre bouton share dédié à la capture de l'image et de la vidéo. Et ben c'est très bien, c'est très bien. Cette nouvelle manette, nous dit-on, qui conserve aussi les mêmes fonctionnalités que l'actuelle en matière de vibration, sera compatible avec les consoles Xbox One ainsi qu'avec les PC. Là, encore une très bonne décision. Sur le plan technique donc, nous dit GameCult, Microsoft annonce clairement que la combinaison 4K et 60 images par seconde sera un objectif de tous les instants, alors que certains jeux moins gourmands visuellement pourront même flirter avec un rendu 8K et atteindre 120 images par seconde. Wouhou ! Outre le ray tracing hein, déjà maintes fois évoqué, la nouvelle Xbox supportera la fonctionnalité variable refresh rate, hein, VRR, qui permet d'améliorer la netteté des images en mouvement et faisant varier la fréquence d'actualisation de celle-ci. Notons, nous dit GameCult, que d'après une entrevue donnée à GameSpot, la Xbox One Series X serait assez flexible pour permettre à l'utilisateur de suspendre sa partie non plus seulement sur un seul jeu, comme actuellement, mais sur plusieurs jeux à la fois. Vraiment sympa, surtout si on joue en famille et tout. Microsoft évoque également, nous dit-on, une technologie brevetée nommée Variable Rate Shading qui permettra aux développeurs d'exploiter encore mieux le GPU de la console dont le SSD nouvelle génération prétend, pour rappel, hein, éliminer les temps de charge. Voilà, le disque dur SSD, hein, pareil du côté de la PlayStation 5, on communique pas mal là-dessus. Pour continuer dans le name dropping de technologie, nous dit le papier, notons que l'Auto Low Latency Mode se concentre sur la réduction de la latence et vise à faire de la console la machine la plus réactive au monde. Rien que ça, Microsoft laisse même entendre que son poulain aura un coup d'avance sur la concurrence grâce à ses liens étroits avec le cloud dont la Xbox One Series X serait tirée partie au niveau hardware et software. Et là, ça nous rappelle encore un petit peu ce qui avait été annoncé pour la Xbox One à l'époque. Bref, s'il était encore un peu tôt pour parler de catalogue de lancement, Microsoft a souligné quand même que ses 15 Xbox Games Studios sont au travail sur les jeux de la future machine. Et là, le premier jeu dévoilé pour la machine dont la vidéo a envoyé du rêve, et moi c'est clairement la plus belle vidéo que j'ai vue cette semaine, la plus belle vidéo de cet event, c'est Hellblade 2. Sennoise Saga Ninja Theory, hein, qui revient aux affaires et qui développait donc un Hellblade 2. Et donc visiblement, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, le jeu était déjà en développement avant que le studio soit racheté par Microsoft. Mais Hellblade 2, la vidéo qui est censée tourner dans un moteur, hein, en temps réel, c'est censé vraiment être le moteur du jeu, c'est extraordinaire. Allez voir cette vidéo, c'est extraordinaire, c'est une claque, je l'ai vu trois fois, c'est toujours aussi hypnotique. Vous savez, si vous suivez même l'émission, je m'intéresse beaucoup à ce que fait ce studio, notamment sur tout ce qui est du domaine de la maladie mentale, de la psychologie, etc. Ils ont des approches vraiment très intéressantes. J'avais fait un sujet il y a quelques temps dans l'émission où vraiment ils poussent avec des spécialistes vraiment cette voie-là. C'est très intéressant. Bref, voilà, c'était le premier jeu dédié vraiment à cette nouvelle Xbox, hein, Series X, qu'on a pu voir. Et ça envoie du rêve, ça envoie du rêve. Alors j'espère qu'il y aura une version PC, puisque moi, il est clair que ce sera la PlayStation 5, voilà, moi qui m'intéresse. Pour toutes les raisons que vous savez, si vous me suivez à nouveau, le jeu sortira peut-être même sur d'autres machines, vu que maintenant, les frontières sont quand même assez éclatées entre les machines, même si tel ou tel studio appartient à tel ou tel constructeur. Bref, en tout cas, grosse claque, c'est Hellblade 2. Et donc l'annonce voilà, de la nouvelle Xbox, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que si vous êtes fan de la marque Xbox, cela vous ravit, j'imagine. Et c'est vrai que c'était vraiment une grosse surprise, hein, de l'avoir annoncé comme ça y est, officiellement. Moi, il y a vraiment que sur le nom, voilà, ça me pose vraiment souci. Ça m'embête pour les fans que vous êtes, si certains d'entre vous, et je le sais, sont fans de la marque Xbox. J'ai peur que le nom crée une confusion. Voilà, et qu'on n'apprend pas des erreurs même des concurrents, ce qui a coûté très très cher à la Wii U, au-delà d'autres problèmes qu'on peut évidemment reconnaître aisément, mais c'est quand même le nom. Voilà. Et là, Xbox Series X, pour moi, ça ressemble à une déclinaison de la Xbox One. Voilà, tout simplement. C'est ça qui me fait un peu peur. Bon, on verra si l'avenir me donnera tort, et ce que j'espère, hein, pour les fans de la marque. Mais il n'y a pas eu que Hellblade 2 d'annoncer lors de cette soirée des Game Awards, il y a eu beaucoup de choses. On a eu des nouvelles de Gears Tactics, le jeu tactique dans l'univers de Gears of War et qui sortira donc le 28 avril 2020. Xbox IGN nous en dit plus en nous disant eh ben, que le jeu s'est enfin montré. Oui, il avait été annoncé à l'E3 2018, c'est vrai, et donc cette fois c'est du concret. Gears Tactics donc, est bien un jeu de stratégie à l'ancienne en tour par tour. Xbox IGN nous dit que les amateurs de la franchise reconnaîtront sans problème la patte graphique de la série et de ses personnages buddy-buildés. La sortie de Gears Tactics est prévue pour le 4 mai 2020, mais le 28 avril pour les possesseurs du Xbox Game Pass. Donc ils ont un petit avantage sur les autres, ne soyez pas jaloux. Une bêta sera disponible via le Game Pass PC également. Pour les fans de Gears, vous voilà prévenus. Un des moments qui m'a le plus aussi plu lors de ces Games Awards, et ben c'est No More Heroes 3. No More Heroes 3 qui est revenu nous voir. Alors on n'a pas encore vu grand chose, mais surtout un gros segment animé, hein, faisant référence à E.T. Un petit alien qu'un jeune garçon aide, et X années plus tard, cet alien revient avec un ton provocateur, etc. pour foutre le dawa sur la Terre. Travis Touchdown ne va pas le laisser faire, donc c'est une exclue Switch, hein, pour 2020, No More Heroes 3, comme nous le rappelle Nintendo Différence. Alors l'occasion de nous rappeler que la bande originale du jeu est composée par Nobuyuki Kaneko, et le retour de Yuzuke Kozaki pour le design des personnages principaux a été donc reconfirmé. Idem, hein, pour la voix de Travis Touchdown, hein, qui retrouve son doubleur attitré, et ça fait plaisir. La fin de la vidéo se terminait avec une grosse référence à Akira, où on voyait Travis Touchdown arriver sur sa moto en nous faisant la même posture que Kaneda. Bon, voilà, c'était du bonheur. On n'a pas vu de gameplay à proprement parler, mais ce dessin animé était rigolo. Le lore du jeu a l'air toujours plus fou. Et je l'attends donc avec grande impatience, vous le savez. On a revu aussi du FF7 Remake, oui, un nouveau trailer de Final Fantasy VII Remake, une vidéo donc, qui s'est focalisée sur Cloud. On a revu des images, on en a vu des nouvelles, etc. Mais surtout, l'info à retenir, c'est que Final Fantasy VII Remake, hein, qui je le rappelle sera disponible sur PS4 le 3 mars 2020, ça approche que je suis heureux avec un Z majuscule, mes amis. Mais la vraie info, c'est que c'est une exclue d'un an. Voilà, c'est une exclue d'un an pour PlayStation 4. On a appris aussi que le prochain épisode, le prochain chapitre est en développement, vous le savez, on en avait déjà parlé. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est une exclue d'un an. Voilà, c'est à retenir. Et donc, toujours du côté de chez Sony, Ghost of Tsushima était de la fête, hein, comme promis dans le State of Play. Et donc, le jeu d'action d'un studio que j'aime beaucoup, hein, Sucker Punch Productions, donc a fait parler de lui, à nouveau, nous dit Millennium, avec en effet des extraits de belles cutscenes et surtout un peu de gameplay. Moi, je trouve que ça a toujours autant la classe. Millennium.org nous rappelle que le jeu est prévu pour l'été 2020 sur PS4. Il faut encore patienter un petit peu pour avoir une date précise. Alors, j'ai vu que certains trouvaient que, par rapport à la promesse initiale, le jeu était un petit peu moins beau. Moi, je trouve que ça a toujours une tronche d'enfer. Donc, moi, j'attends particulièrement ce Ghost of Tsushima. Square Enix a fait une belle annonce aussi pour les fans de Bravely Default, puisque Bravely Default 2 était de la fête. SwitchActu.fr nous dit que la vraie suite de Bravely Default est la vraie suite, oui, puisque, et d'ailleurs SwitchActu.fr nous le rappelle, Bravely Default a déjà eu une suite normalement sortie sur 3DS et qui s'appelait Bravely Second and Layer. Et ben non, c'était un jeu mobile, et donc là, la vraie suite, elle est là, sur Switch, bien sûr. Alors Switch Actu nous rappelle que le premier volet avait vraiment marqué les joueurs, hein, pour sa patte graphique, que l'on a retrouvé plus tard, modifié et adapté dans Octopath Traveler, hein, c'est le même studio. Et au vu des premières images, donc ce Bravely Default 2 s'inscrit vraiment dans cette lignée avec ce design de personnage assez particulier qui ne plaira pas forcément à tout le monde, bien sûr. Mais visuellement, c'était très beau. On a retrouvé les musiques de Revo, qui était vraiment celui qui avait composé les musiques du premier Bravely Default, donc rien que les musiques que vous entendez dans le trailer. C'est juste, ouais, c'est du petit lait, c'est magnifique. Ça sortira en 2020, on n'a pas plus d'infos, en tout cas ça se passera sur Switch. On va passer alors à un autre univers, hein, celui de Gearbox. Gearbox, hein, qu'on connaît pour Borderlands, hein, notamment, annonce Godfall, un action RPG coopératif annoncé pour PS5 et PC. Et c'est donc le premier jeu annoncé comme ça en teaser pour PlayStation 5. C'est Numerama.com, hein, qui nous en parle et qui nous dit que Godfall est décrit comme un looter slasher. Hein, donc on connaissait déjà les looter shooters, nous dit le site, hein, comme les Borderlands justement. Et donc voici un nouveau sous-genre faisant la part belle à l'action et au corps à corps, toujours avec cette notion de course au butin et à l'équipement. Donc Godfall mettra en scène des combats nerveux et techniques avec une emphase sur l'attaque plutôt que la défense. Pour la mise en scène, hein, les développeurs misent sur une vue à la troisième personne et des boss redoutables. Alors sur PC, ça se passera sur l'Epic Game Store, hein, et la première bande-annonce réalisée avec le moteur du jeu montre des graphismes plutôt très réussis, en tout cas c'est ce que pense Numerama, effectivement, ça a plutôt une bonne tête. Une autre annonce qui m'a vraiment là particulièrement intéressé, bah, ce sont les co-créateurs, hein, de Dishonored et de Prey qui annoncent Weird West. C'est Gameblog qui nous en parle et qui nous dit qu'il y a quelques semaines, on apprenait effectivement avec une certaine joie l'ouverture de Wolf Eye Studio, une entité fondée par Raphaël Colantonio et Julien Roby, deux anciens d'Arkane Studio, Prey, Dishonored, des jeux et un studio cher à mon cœur. Donc inutile de dire à quel point nous étions impatients, nous dit Gameblog, de découvrir sur quel projet les vieux loups de mer étaient en train d'œuvrer. Heureusement, la cérémonie des Game Awards 2019 nous ont apporté une réponse en bonne et due forme avec le trailer d'annonce de Weird West, un action RPG situé dans un univers western aussi bizarre qu'étrange dans lequel des chasseurs d'or opportunistes côtoient des chasseurs de primes comme cultistes encapuchonnés. Donc la caméra, pareil, hein, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est une caméra aérienne, effectivement, la direction artistique est très sympa, et donc aux commandes d'un groupe de héros, nous précise Gameblog, il faudra, comme le veut désormais l'expression, faire des choix qui impacteront l'univers, un univers donc de dark fantasy dans lequel il vous faudra affronter bon nombre de créatures littéralement fantastiques. Donc c'est annoncé sur PC via Steam, hein. Weird West ne possède pas encore de date de sortie, et il faudra donc se montrer patient. La page Steam se fend d'un comic soon. Et pour le reste, eh ben, il faudra prendre son mal en patience Ce sont deux créateurs qui ont un CV qui parle pour eux, donc on va attendre très sérieusement d'avoir plus d'infos sur ce jeu, sur ce Weird West, et dès que j'ai plus de biscuits à me mettre sous la quenotte, je vous en parle bien sûr dès que possible. On parlait tout à l'heure de Control, qui a raflé un prix aux Game Awards, que j'ai hâte de faire de Remedy. Et donc, Control s'offre un nouveau mode de jeu avec une grosse mise à jour nommée Expédition. Donc c'est destiné aux joueurs qui ont déjà bouclé le scénar principal, la campagne principale du jeu. Donc il faudra nettoyer 4 zones avec un temps limité 25 minutes, selon 3 modes de difficulté et avec des modificateurs aléatoires qui pourront affecter Jesse ou ses adversaires. Remedy a confirmé aussi la première extension payante sur 2 prévue, The Foundation, qui arrivera donc le 26 mars 2020. La deuxième, qui elle s'intitulera AWE, sera apparemment connectée à Alan Wake. Ah oui, là donc là ça s'explique, on comprend un petit peu mieux. Et ça devrait débouler mi-2020. On a eu aussi un petit passage sur The Wolf Among Us, qui aura donc bien le droit à une deuxième saison pour le plus grand plaisir des fans. Oui, GamerGen nous dit que Telltale Games récupère ses développeurs clés en interne ou via Ad Hoc Studio et peut enfin recommencer à travailler sur ses projets. Annoncé en 2017, The Wolf Among Us 2 a vu son développement logiquement arrêté après la fermeture de Telltale's, mais la réouverture récente du studio a forcément ravivé les espoirs des joueurs et ils avaient raison, donc oui, il y aura bien la saison 2. La nouvelle a été donc donnée par une bande-annonce donc lors des Game Awards 2019, officialisant le retour de Big B Wolf grâce à une collaboration avec Ad Hoc Studio, une entité entièrement formée par des anciens employés de Telltale. Donc ça, c'est bonheur. Nous avons eu aussi une vidéo sur Dark Alliance, l'action RPG Donjons et Dragons qui venait du froid. Xboxygen nous dit que c'est un nouveau jeu issu de la licence Donjons et Dragons, donc qui fait son arrivée à travers un court trailer, joli trailer d'ailleurs. Donc ce sera un action RPG jouable en coopération, un nouveau jeu qui va ravir à n'en pas douter les fans de Donjons et Dragons ainsi que ceux qui ne supporteront pas d'attendre Diablo 4. Vin Diesel, oui, et Michel Rodriguez étaient de la fête pour annoncer Fast and Furious Crossroad, qui débarquera sur PC via Steam en mai 2020. Un trailer qui nous a montré des belles courses de bagnoles, développées par le même studio qui nous avait donné Project Cars ou Need for Speed Shift. Ce serait édité chez Bandai Namco. Alors, les phases de bagnoles avaient l'air très sympas. On a vu quelques phases de dialogue avec les acteurs modélisés, et là, franchement, on aurait dit vraiment de la PS3 et pas de la PS3 fin de génération. Je pense que toute la thune a dû être mise sur les bagnoles. Voilà, bon, si vous êtes fan de ce trip là, eh ben, grand bien vous fasse et vous avez de quoi faire. On parlait de Remedy avec Control, et ben sachez que des anciens de Remedy et Wargaming annoncent 9to5, leur FPS tactique. C'est GamerGen à nouveau qui nous en parle et qui nous rappelle que l'année dernière, Mathias Millerin annonçait avoir monté Red Hill Games à Helsinki, un studio avec des anciens de Wargaming et Remedy tourné vers le free-to-play sur PC. Leur premier projet a donc été officialisé dans le cadre des Game Awards avec un beau pied-nez à Fortnite. Et oui, le premier teaser de 9to5 nous montre en effet un soldat désabusé face à des lapins mignons qui veulent faire la guéguerre et qui va vite quitter le jardin d'enfants pour partir sur le champ de bataille. Alors aucun gameplay n'a encore été montré. Le texte accompagnant la vidéo nous promet un FPS Tactics où le travail d'équipe primera sur la brutalité et les réflexes. Nous y incarnerons, nous dit GamerGen, des mercenaires qui s'affronteront en 3 groupes de 3 et où les objectifs de chaque round varieront selon le résultat du précédent pour des parties rapides qui peuvent se faire en moins de 15 minutes. Pour les intéressés, les inscriptions pour l'alpha sont déjà ouvertes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi ? Il y a eu pas mal de choses. Ah oui, Ori of the Wisp, la suite de Ori and the Blind Forest, s'est remontré à nouveau avec une nouvelle date de sortie, le 11 mars 2020. On a eu aussi Naraka Bladepoint qui s'est dévoilé, ça c'est JV.com qui nous en parle. Naraka Bladepoint était attendu pour ses Game Awards et on l'a vu, nous dit JV.com. Il s'agira d'un jeu multijoueur en ligne où vous devrez combattre avec des guerriers chinois. De l'action en combat rapproché, des fonctionnalités particulières, bref, on nous annonce un système de combat dynamique unique puisqu'il n'y aura aucun bouton de parade, mais tout sera une question de timing. Le jeu poussera aussi à l'exploration avec une île étrange à parcourir avec son grappin, capable de s'accrocher un petit peu n'importe où. C'est vrai que le jeu, visuellement, on aurait dit un peu un mélange de Sekiro, un mélange de jeu online, enfin, il y a pas mal de petites choses. Écoutez, à voir, il y a eu pas mal de choses. Les créateurs de The Forest qui ont annoncé la suite Sons of the Forest avec un trailer assez saisissant, j'ai envie de dire. Le prochain chapitre aussi de The Elder Scrolls Online qui là nous amène vers les terres de Skyrim, Hein, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Le groupe Green Day qui voit sa Zik arriver dans Beat Saber, ça je pense que ça peut être très très bon. On a eu aussi des nouvelles du MMO d'Amazon, hein, New World. On a eu aussi du contenu Star Wars dévoilé pour Fortnite. Maneater qui revient dans une vidéo complètement sanguinolente. Alors Maneater, c'est ce jeu où vous dirigez un requin. C'est un peu une sorte de monde ouvert où vous devez aller bouffer, voilà, de l'humain. La vidéo est toujours rigolote. Et ça fait plaisir de jouer le rôle du requin. Il y aura de l'évolution, votre requin peut se transformer, vous allez pouvoir le customiser, enfin, c'est complètement fou. Complètement fou à l'image donc de ce moment passé devant les Video Game Awards 2019. Ce fut un event vraiment assez chargé à l'image de cette semaine. Voilà un petit peu en tout cas ce que je voulais vous dire pour cette émission-là. J'espère avoir été le plus clair possible, avoir synthétisé correctement toutes ces annonces. C'est pas évident, et je crois, alors si je ne fais erreur, je crois que c'est Pipolitsu sur Twitter qui se plaignait un petit peu du fait que pour avoir un condensé de ces événements, c'était compliqué parce que chaque jeu, bien sûr, a sa news dédiée, et c'est le nerf de la guerre, on peut le comprendre, mais c'est pas évident, et donc j'espère moi, par le biais audio, vous avoir résumé un petit peu tout ce qui s'était dit, tout ce qui s'était vu. Quelle semaine, mes amis, quelle semaine là qui vient de s'écouler, vraiment, que d'annonces, que de belles choses. Alors parfois des jeux, bien sûr, qui n'ont présenté que des trailers, que des cinématiques, mais voilà, on va quand même retenir pas mal de belles annonces, quand même de jeux, du concret, et puis l'officialisation de la prochaine Xbox, c'est quand même pas rien. Voilà un petit peu comment on va terminer cette édition un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous a plu. C'est sympa aussi parfois de casser la routine. Donc n'oubliez pas de m'envoyer vos photos pour le concours Rétro Laser. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier les tipeurs de l'émission, les contributeurs. Merci à vous, vous êtes vraiment le carburant qui fait que... Ah voilà, j'ai toujours la patate pour continuer. Merci à Neo Calimero, merci à Malodélic, à Crocodine, à Pipoletsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwididju, Electrotactics, Tophobie, Damien, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, MachinTruc76, Garan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas Vanifraise, X, Nihili, Carnoct, Melcoc, Luterian, Aza, Sloakone, Evolix, Forza Pedro, JP Madère et Monsieur A. Merci à toutes et tous. Merci également au patron sur Patreon, Gontran. Merci mille fois encore à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous après cette grosse émission lundi prochain. Bien sûr, même flux, même chaîne, vous ne le savez que trop bien. N'hésitez pas à partager un maximum. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Panache et robustesse pour la semaine. Gros béco et à tantôt. Bye bye.